pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Et si on faisait un Parlement de Loire ? Ce serait quoi un Parlement de Loire ? Première inspiration, les voix. Reconnaissance, considération de voix autres qu'humaines. Donc la question du droit, la question des voix. Le droit et les voix. Considérer les voix, considérer qu'il y a des entités autres qu'humaines qui peuvent être entendues à des tables de négociation ne suppose pas forcément qu'il y ait une personnalité juridique. Donc il y a deux combats, c'est des voix et des droits.
Maître de la religiosité sur la nature n'est pas tellement différent de mettre des lois économiques sur la nature et n'est pas tellement différent non plus de donner une personnalité juridique. Et c'est là que j'interroge en tout cas. Quand on théorise avec des catégories juridiques. La catégorie juridique ne s'applique pas à la nature, pas plus que les catégories économiques. Et pas plus non plus que les catégories spirituelles, machin, etc., d'analyse des civilisations.
Et si, pour tenter de préserver le biotope qui lui permet de vivre, respirer, boire, manger, si donc, pour assurer sa propre survie, si l'être humain dotait ce qu'on appelle un peu rapidement la nature d'une entité juridique, si les fleuves, les montagnes, les arbres, les autres animaux que nous-mêmes étaient considérés comme des personnes morales que des êtres humains pourraient représenter dans des tribunaux? C'est l'une des nombreuses questions soulevées par le Parlement de Loire tenu à Saint-Pierre-des-Corps en 2019 et auquel a travaillé Maud Le Floch du Polo, Pôle Art et Urbanisme. Anthropocentrisme encore et toujours, pourrait nous dire Gilles Deguay, autre invité de cette nouvelle émission sur l'eau, et notamment eau douce et a priori potable, qui non seulement est pourrie de poisons agro-industriels, mais qui en plus va se faire de plus en plus rare. L'épouvantable été caniculaire 2022 n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Aujourd'hui, on fait de la philo au fil de l'eau. On va, à titre d'exemple, parler de la Loire qui passe par chez moi. Mais ce qui est valable pour ce fleuve est valable pour les autres acteurs de notre biotope, bien maltraité par Sapiens Sapiens qui ne sait pas grand-chose et qui commence à le payer cher. SOS, H2O, au secours. Fidèle de cette émission, vous connaissez déjà notre premier invité, Gilles Deguay, notamment militant écologiste, fin connaisseur de l'environnement et l'un des membres du comité de bassin Loire-Bretagne. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors on enregistre cet entretien en cet été 2022. On a dû se croiser il y a un peu plus d'une dizaine d'années au tribunal de Tours où tu comparaissais avec des faucheurs volontaires d'EGM. En ce printemps 2022, grâce à un bus affrété par la Confédération Paysanne, nous nous sommes à nouveau rencontrés en allant du côté de Parthenay participer à une manif contre ce que les opposants appellent les méga-bassines et que les agriculteurs industriels appellent des bassins de rétention d'eau. On se recroise aujourd'hui. On va continuer à parler de cet enjeu vital qu'est l'eau, ce commun qui est souillé, pillé, détruit à des fins capitalistiques évidentes.
On s'est aussi rencontré sur le bateau de Clément à la Rabouilleuse il n'y a pas très longtemps.
Donc, la Rabouilleuse, c'est cette école de Loire qui est en amont de la ville de Tours, hein, en région centre sur la Loire. On s'est recroisé là lors d'une conférence tout à fait dramatique à l'issue de laquelle j'ai eu envie de me pendre parce que ce que tu racontes n'est vraiment pas drôle.
Oui, mais en même temps, c'est avec le calme, la douceur d'une soirée d'été sur des bateaux à fond plat traditionnels. Enfin bon, tout ça contrebalançait le discours. Deuxième chose, je ne te refais pas le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, mais c'est une histoire de résistance, ça revient de plus loin. Mon cursus, c'est fondamentalement un cursus militant et je ne veux pas y occulter 68. Je suis réellement un 68ard, quelqu'un qui tout d'un coup s'est rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui ne collaient pas dans la société et que ce qui la faisait bouger, c'était grosso modo plutôt des mouvements qui venaient d'en bas, mais qui ont aussi besoin de trouver des débouchés, des traductions. Bref, il faut partir d'en bas, mais il faut aussi s'unir pour arriver à faire avancer les choses. J'en profite pour dire, je ne comparaissais pas au tribunal.
Pour les EGM ?
Pour les EGM, parce que j'étais comparant volontaire. C'est-à-dire que je faisais partie d'une liste de gens qui disaient, nous voulons être jugés comme tout le monde parce que nous participons de ce mouvement. La justice s'était rendue compte du ridicule que ça pouvait avoir. Et donc, la stratégie était de choisir 3 ou 4 personnes qui étaient jugées. Et nous, on venait en disant, mais nous, on veut être jugés aussi pour les mêmes causes. Les juges ont finalement décidé que jamais ils feraient ça. Et donc, on a eu 2 gros procès d'une centaine de personnes, mais plus après. Juste ça pour indiquer que ce qui fait la force de ces mouvements-là, c'est bien le nombre, c'est bien la conviction, c'est bien... Je veux dire, on n'est pas des héros, quoi. Voilà. On fait partie d'un mouvement très collectif, et si on a une force, c'est d'organiser le collectif, mais c'est pas de s'en aller tout seul faire sa petite action. Il y a une forme de romantisme dans tout ça, qui est agréable, hein, mais il faut s'en échapper. On est sur des combats très très sérieux, très argumentés, qui ne gagnent que si on gagne l'opinion publique et que si on est sur une forme très élaborée du collectif.
Tu t'astreins à une certaine diplomatie dans ton propos parce que aujourd'hui 2022, et ça fait déjà un moment que tu sièges aussi dans des instances.
Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que si je vais dans ces endroits-là, c'est bien parce que il faut maintenir le dialogue, y compris avec les gens qui y sont.
Qu'est-ce que c'est ces endroits-là ?
Ça s'appelle le comité de bassin. C'est une instance qui a été mise en place, je pense, au moment de la décentralisation, et qui vise à représenter d'une certaine manière, c'est ça l'ironie, quand Clément et 2 autres personnes sont venus présenter le Parlement de Loire au comité de bassin, c'est que le comité de bassin lui-même se pense comme un Parlement de Loire, même si c'est un Parlement qui est un peu particulier, puisqu'il n'y a pas d'élection. Mais il y a des formes de représentation qui sont relativement élaborées et puis qui évoluent avec le temps.
Qui siège à ce comité de bassin auquel tu participes ?
Il y a 180 personnes, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est coupé en 5. 2 parts de 5 d'élus, de gens qui eux-mêmes sont passés par l'élection auparavant. Alors ces élus sont des élus nationaux, il y en a quelques-uns, régionaux, départementaux, de communes, d'agglomérations. Ça, ça fait environ les 2/3 de ce que je viens de dire. C'est dehors, ça doit faire dans les 75. Ensuite, il y a des usagers. Le terme d'usager, il pose tout de suite une première question. On est usager de quoi ? Alors, on est usager de l'eau. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'eau pour leur activité. C'est ce qu'on appelle les usagers économiques. Grosso modo, de l'agriculture, à peu près la moitié des 70 autres. Et puis, des industriels. Comme dans les industriels, il y a aussi les coopératives agricoles. Ça commence à donner une espèce de centre de gravité un peu agricole. Mais il y a aussi, dans ces mêmes, les pêcheurs professionnels. On connaît quelques-uns et qui ne pensent pas forcément exactement la même chose que les autres pêcheurs professionnels qui peuvent être d'ailleurs aussi en partie en mer, puisqu'il y a la côte. Donc ça, ça fait un paquet d'usagers agricoles. Et puis après, il y a tous les autres classés dans la catégorie non économique. Alors ça nous amuse beaucoup, nous autres, d'être classés comme étant non économiques. Ça indique qu'on ne sait pas trop comment nous déterminer. On estime que nous, on est des usagers d'intérêt général, c'est-à-dire que par opposition à des gens qui ont des intérêts personnel propre, on est plutôt des gens qui défendent une forme d'intérêt général. Alors, sont classés dans cette catégorie les associations de défense de l'environnement. Moi, j'y suis au titre de France Nature Environnement, qui a présenté un certain nombre de candidats en respectant les grandes régions du bassin. Et donc, comme je suis dans la région Centre-Val de Loire, mais en même temps, si j'ai été désigné par FNE Centre-Val de Loire, c'est aussi parce que je travaille dans la Sépente, Société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine. Bien entendu, on participe du mouvement où il vaut mieux ménager la nature que l'aménager. C'est comme ça, c'est une histoire, ça a 50 ans, c'est une grosse association. Donc, FNE, France Nature Environnement. FNE émane d'une série de structures associatives locales qui se sont fédérées. Mais ces structures locales sont des structures fortes et très actives. Je crois que c'est une grande force de FNE de partir de formes locales qui se fédèrent et d'être plutôt sur une pyramide ascendante plutôt que l'inverse. Donc, je suis représentant de la Sépente. J'ai été désigné par FNE Centre-Val de Loire pour aller au comité de bassin. Et donc, je vais au comité de bassin avec des représentants de la Bretagne, des Pays de la Loire, de l'Auvergne, etc. et tout. On est 13 représentants d'associations de défense de l'environnement.
dont la LPO aussi, qui doit avoir deux représentants parmi ces 13.
La Ligue de protection des oiseaux.
Là-dessus, il faut rajouter 7 représentants des fédérations de pêche propres professionnelles. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les économiques. Des gens qui travaillent sur la rivière aussi.
Pas des pros, des pêcheurs à la ligne.
Des pêcheurs à la ligne, absolument. Des kayakistes. Je pense qu'il est tout seul représentant, mais on bosse avec lui de façon très étroite. Et puis, 10 représentants des consommateurs, qui au départ sont plutôt venus parce que toutes les ressources qui sont consacrées à l'eau viennent pour 80% des redevances qui sont payées par des consommateurs. Alors, ils sont représentants des consommateurs, mais des consommateurs individuels. Et on ajoute à ça des représentants des conservatoires des espaces naturels, des personnalités qualifiées. Ce paquet-là fait donc 1/5 du comité de bassin, donc ça doit faire 36 ou 37. Il y a 2/5 d'élus, 2/5 d'utilisateurs, il reste 1/5, ça c'est les représentants de l'État, désignés par l'État. Les élus sont désignés, alors soit certains, ils sont de droit, par exemple les régions ont droit à 1 ou 2 représentants, donc c'est les régions qui les désignent. Les départements c'est plus compliqué parce que les départements c'est des gens qui représentent les départements en général, mais pas forcément leur département. Et donc ceux-là sont envoyés par les associations. L'institution, l'association des départements de France, de la même façon l'association des grandes villes de France. Voilà. Ça, c'est un premier mode de désignation. C'est plus compliqué pour les représentants économiques. Les représentants économiques, ils sont désignés par la préfète de région sur des propositions d'un certain nombre de structures. Donc je suis dans cette structure-là. Je ne prends pas particulièrement de précautions, mais je dis qu'il faut être capable à la fois d'exprimer des positions très fortes, mais de les exprimer de façon à ce qu'elles soient audibles, y compris par des gens qui défendent des positions par ailleurs complètement opposées aux nôtres. Et je pense aussi qu'il faut être capable d'entendre ce que disent ces gens-là, pas forcément pour être d'accord avec eux, mais même éventuellement pour être capable de démonter plus facilement des argumentaires qui reposent sur autre chose que la réalité. Voilà. Donc, si je prends des précautions, c'est parce qu'on a toujours tendance à formuler des choses de façon très brutale. Enfin, je crois qu'il faut les exprimer très clairement, très franchement, très radicalement. Et j'ai tendance à penser que je suis plus radical que brutal. Voilà. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire.
Ce comité de bassin, donc, où siège plein de représentants qui n'ont pas forcément les mêmes visions, les mêmes analyses et les mêmes intérêts. Il en sort quoi ? Des préconisations ? Ça sert à quoi ?
Si c'était que des préconisations, franchement, ça ne vaudrait pas le coup. Enfin, c'est une énorme machine quand même. Non, ça a des fonctions institutionnelles. Tous les 5 ans, c'est ce comité de bassin qui élabore et qui adopte un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, SDAG, qui comporte alors des préconisations, mais aussi qui comporte des éléments qui deviennent réglementaires à partir du moment où c'est promulgué par le préfet de région. Et donc ça élabore en partie, alors pas du droit, mais de l'application d'un certain nombre de réglementations et un certain nombre d'orientations qui éventuellement préparent un droit ultérieur. C'est un gros document, le SDAG. C'est quand même un élément qui est opposable à un certain nombre d'autres documents d'aménagement.
Je dînais l'autre soir avec des amis qui apprécient M. Yannick Jadot, représentant à l'époque d'Europe Écologie Les Verts, et notamment quand Jadot disait que l'écologie est tout à fait compatible avec l'économie de marché. Et mes amis m'ont dit « Mais oui, bien sûr que l'écologie est compatible avec l'économie de marché, parce que c'est en donnant une valeur financière aux arbres, à l'eau, aux animaux, qu'on va y prendre garde. » Donc c'est en mettant une étiquette de prix sur ce qu'on appelle la nature, qu'on va finalement la préserver, parce qu'à partir du moment où ça coûte quelque chose, on y fait attention. Si tu avais été à table avec nous, tu aurais répondu quoi ?
J'ai essayé de revenir plutôt à des questions plus théoriques sur cette question de l'échange, etc. Et tout. La première chose que je veux dire, c'est que je comprends très bien comment ça c'est arrivé. Moi, je fais partie d'associations dans lesquelles on a utilisé à un moment ou à un autre des arguments juridiques. Et ces arguments juridiques, comme on voulait que les gens soient sanctionnés pour ce qu'ils avaient fait, en gros, on ne demandait pas de les mettre en prison. Et donc, on a demandé une forme de réparation. Et dès l'instant où on rentre dans une idée de réparation, on la chiffre avec de l'argent. En général, quand elle est chiffrée, elle est ridiculement basse. Et donc du coup, on a été amené à essayer de définir ce qu'on avait perdu. Il y a tout un débat autour notamment du naufrage de l'Erika et des procès qui ont eu lieu après. Et honnêtement, tous les défenseurs de l'environnement sont extrêmement contents quand un pollueur est obligé de payer, bien entendu. Et puis cette idée que quand même on ne peut pas faire ça impunément, c'est des idées très très fortes. Ça a du coup amené tout un courant très fort hein, où on définissait les services rendus par la nature. Cette idée elle a un immense inconvénient, c'est qu'elle part d'un point de vue humain. Elle ne met pas l'homme dans la nature, elle met l'homme en dehors et il a besoin d'être servi par la nature. Et donc ça crée une forme d'extériorité et surtout ça crée une forme de pensée dans laquelle on pense la nature sur la base de critères qui ne sont pas des critères naturels. Il n'y a pas de valeur d'échange dans la nature.
Anthropocentré.
C'est absolument anthropocentré.
Bah oui, mais après tout, c'est ce que certaines religions nous enseignent, que toute la nature est à notre disposition et que nous, les sapiens, on est tout au sommet de la pyramide destinés à maîtriser et contrôler tout ce qui est en bas de nous.
Il y a des religions qui n'ont pas fonctionné sur ce mode-là, qui ont fonctionné sur un mode d'immersion, etc. Toutes les questions sur les peuples primitifs. Parce que d'abord, c'est les monothéismes qui correspondent à des formes de début de civilisation. On va pas faire d'histoire des religions, mais en gros, c'est pas forcément parce que c'est religieux que c'est anthropocentré, mais c'est la forme de la religion qui repose sur le fait qu'on soit à un niveau d'évolution où on passe à de l'anthropocentrisme.
Mais sous nos tropiques, on pense encore comme ça, que la nature est à notre service.
Comme l'histoire, c'est aussi un peu d'utiliser ce qu'on peut dans la nature, parce qu'on survit pas si on ne l'utilise pas, et que l'histoire repose autour de ça, c'est pas totalement étonnant qu'il y ait eu une conception sous-jacente qui ramène à ça. Peut-être que justement le progrès, c'est d'être capable de comprendre qu'il faut sortir de cette vision-là. Tout l'aménagement jusque-là a été de transformer la nature pour les besoins humains. Et je pense que l'élément réellement de progrès, alors qui donne un peu d'espoir, c'est qu'on a une intelligence probablement suffisante pour ne pas transformer la nature pour qu'elle s'adapte aux besoins humains, mais pour être capable d'exprimer les besoins humains dans une nature qu'on connaît et en respectant ces éléments et donc en adaptant nos besoins et les façons dont on utilise nos besoins à la nature et pas l'inverse. Enfin, en tout cas, moi, ma pensée sur ces questions-là, elle se forme au moment de Loire Vivante, donc dans la décennie 90, et je pense que fondamentalement, c'est autour de ça que ça tourne. C'est-à-dire, penser qu'on transforme la nature, c'est un rêve fou, parce que la nature, on crée un déséquilibre en la transformant. Les fleuves, on commence par les mettre tout droit pour que l'eau s'en aille, mais après, quand il y a moins d'eau, on crée des seuils pour que la lame augmente, etc. Et on a toute une série d'éléments de compensation des transformations qu'on a faites. On passe son temps à corriger des modifications qu'on a faites auparavant, et plus ça va, plus la machine est abominable, hein, la compensation de compensation. Et donc, cette réflexion-là, qui est que vouloir transformer la nature, recréer un équilibre que nous serions capables de retrouver pour compenser tous les déséquilibres qu'on a intégrés auparavant, c'est une vision folle. Voilà. Marx, il distingue la valeur d'usage et la valeur d'échange. Il faut que nous comprenions que dans la nature, il n'y a pas de valeur d'échange, il y a des valeurs d'usage. En gros, un papillon qui est à cet endroit-là, on est content qu'il y soit. Si on échange ce papillon contre une tortue à un autre endroit, c'est pas échangeable. C'est-à-dire que ce qu'on a détruit à cet endroit-là, et ça reste détruit, et ça n'est pas compensé par le fait qu'on va fabriquer par ailleurs mieux. Alors j'ajoute en plus qu'à chaque fois qu'on compense, en fait ce qu'on compense, c'est des destructions qu'on a faites, mais ce n'est pas une vraie compensation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la nature qui perd et de l'autre côté la nature qui gagne. Il y a d'un côté de la nature qui perd et de l'autre côté une nature qui perd moins parce qu'on se dit qu'on a compensé. Et donc toute la problématique qui tourne autour de la compensation, échanger un élément de nature contre un autre élément de nature, ça c'est juste inopérant. Et ça passe par-dessus cette idée relativement simple qu'il y a des valeurs d'usage, mais que toutes les valeurs d'usage ne deviennent pas forcément des valeurs d'échange, et que quand elles deviennent des valeurs d'échange, c'est là que ça pose problème. Voilà.
A fortiori, on ne peut pas compenser la destruction d'un milieu naturel par du pognon. Je reviens à l'Erika, un groupe pétrolier, il va se dire « Ah bah, une marée noire, ça va me coûter que ça ». Bah, on n'a qu'à polluer leur plage et puis on paye. Tu disais remplacer une tortue par un papillon et c'est encore plus absurde de remplacer des goélands englués par du fric. Quand c'est détruit, c'est détruit. Ce qu'on appelle la nature n'a pas de prix. On ne peut pas mettre de prix. Quand on détruit une forêt primaire, on ne peut pas la refaire, même avec tout le pognon du monde.
Je suis absolument d'accord là-dessus. Mais revenons à l'histoire de l'Erica. Le fric qui a été donné, il a servi à des éléments de prévention, des éléments de réparation. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que le raisonnement s'est formé. Si jamais on nous donnait tellement d'argent que ça nous permettait de contrôler ailleurs, etc. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a obtenu plus ? On a obtenu plus parce que l'atteinte a été jugée intolérable, parce qu'elle était exceptionnelle. Dès l'instant où on l'a fait rentrer dans du normal, dans du quotidien, qui peut s'échanger, on rentre effectivement sur des éléments où la valeur se fait à qu'est-ce que j'offre et qu'est-ce que j'obtiens. On va faire varier des coûts. Alors on le voit avec le prix du CO2 par exemple. C'est-à-dire on les met sur le marché, puis tout d'un coup ça s'effondre. Mais sauf que le dommage, lui, c'est pas effondré, il est toujours le même. Et donc c'est cette déconnexion entre des éléments de régulation par le marché qui sont complètement décalés, qui finit par rendre la possibilité de faire intervenir de l'économique dans l'écologique, ça finit par le rendre finalement inopérant. Si on les rapproche tous les deux, c'est pas l'écologie qui gagne. Dès l'instant où on a introduit ces éléments d'échange, c'est cette loi-là qui va finir par s'imposer. Et du coup, au bout du compte, c'est l'écologie qui perd. En gros, c'est deux domaines qui ne sont pas interpénétrables. Et les faire interpénétrer, c'est faire qu'au bout du compte, ça sera l'économie qui gagnera. Donc c'est une erreur de raisonnement, mais je pense que beaucoup d'associations de défense de l'environnement se sont rendues compte de l'impasse. Et de plus en plus, on fait extrêmement attention à ne pas se poser ces questions de donner de la valeur. Je ne dis pas que c'est fini, mais je dis que... Alors d'abord, moi j'ai vécu il y a une dizaine d'années une espèce de vogue, jouer dans la cour des grands, la compensation, le machin, tout ça et tout. Il y a une forme de séduction de ça, hein. L'idée qu'on va peut-être trouver une forme d'efficacité. 10 ans après, on sait que non, on n'a pas trouvé d'efficacité et qu'à la limite, c'est presque pire. Voilà. 2 mots supplémentaires là-dessus. On utilise beaucoup, nous, la fameuse doctrine ERC. Éviter, réduire, compenser. Comme ça a été fait par des vrais défenseurs de l'environnement, hein, c'est éviter, d'abord. Si vraiment on n'a pas pu éviter, au moins réduire. Et si vraiment on a tout ce qu'on n'a pas pu réduire, à minima, le compenser. Le problème, c'est qu'une fois que c'est écrit, nous, on peut lire ERC. Mais eux, ils lisent, c'est compenser, compenser, compenser. Et donc, au bout du compte, on est en permanence piégé. Ça se voit dans les textes quand on les regarde, hein. C'est-à-dire le poids qu'il y a éviter, réduire et compenser. Il y a des textes où éviter, réduire a disparu complètement. Mais d'une certaine manière, réfléchissons par exemple à ce qui se passe sur les modifications climatiques. Pendant tout le temps où elles n'étaient pas là, on disait il faut les éviter. Et maintenant, on dit il faut s'adapter. Et de moins en moins, on évite. Et donc on est sur une impasse absolue. C'est-à-dire si on ne fait que s'adapter et qu'on ne se rend pas compte qu'on est rattrapé par des phénomènes qui de toute façon vont plus vite que l'adaptation, eh bien l'adaptation n'a aucun sens. Ce n'est pas idiot de s'adapter une fois que la catastrophe est là. Mais si on oublie complètement qu'on est obligé de s'adapter parce que toutes les choses qu'on a fait auparavant nous ont conduit à ça, les mêmes choses vont conduire à ce que ça s'aggrave et on n'arrivera jamais à s'adapter. Alors on a un peu perdu le fondement théorique fort. On a mis des valeurs, pas forcément humaines, mais qui résultent de sociétés humaines qui sont construites sur le marché, l'échange, etc. Et, tout. Et donc, ces conceptions de valeurs d'échange, qu'on a plaqué ça sur la nature, et que ça ne fonctionne pas, et que ça crée des catastrophes. Tout ce que j'ai décrit, et ce que tu as décrit aussi sur on va se retrouver avec ça se paye, il y a des idées très très fortes, notamment le fait que quelqu'un qui paye ne considère que l'atteinte qu'il a portée à la nature est compensée par le fait qu'il a payé. Et que donc ça dégage une bonne conscience extraordinaire. Les conférences internationales.
Oui, tout simplement du cynisme. La compagnie pétrolière propriétaire de l'Erica, qui doit engranger des profits fabuleux, se dit « Oh bah tiens, je peux continuer à faire circuler mes bateaux pourris qui peuvent couler d'un moment à l'autre, parce que ça ne va me coûter que ça. »
Ça ne crée du cynisme que parce que, d'un autre côté, il y a des vecteurs d'opinion, et y compris des gens parfaitement honnêtes, qui accepte de considérer que ça compense. Sinon, ça ne créerait pas de cynisme.
Non, mais je connais aussi tout un tas de gens bien intentionnés qui s'achètent une bonne conscience en disant « Ouais, je peux consommer la planète à coup de voyage en avion parce que une infime partie de mon billet d'avion qui va servir à planter un arbre. »
Si vraiment c'est bien de planter un arbre, plante un arbre, mon gars, hein, mais t'es pas obligé de prendre l'avion après. Oui, t'as planté un arbre, mais si tous les gens qui plantent des arbres prenaient l'avion, donc si les gens qui veulent planter des arbres plantent des arbres, très bien, mais qui viennent pas nous dire que ça va compenser un machin qui est de l'autre côté, ça ne compense pas. Ça n'existe pas, la compensation sur la nature.
Suite de cette discussion avec cet autre thème, la représentation juridique de milieux naturels. Si fleuves, montagnes, arbres et animaux étaient considérés comme des personnes morales que des êtres humains pourraient représenter dans des tribunaux. C'est l'une des nombreuses questions soulevées par le Parlement de Loire pour lequel a travaillé Maude Le Floc. Bonjour Maude.
Bonjour.
Nous sommes ici dans les locaux du Polo, donc qu'est-ce que c'est ça ?
Polo, c'est le pôle art et urbanisme. Okay. L'art peut participer à faire de la ville, du territoire, de l'urbanisme et pas seulement être un décor dans la ville.
Et en l'occurrence dans notre ville de Tours, donc en région centre, Indre-et-Loire passe la Loire. Et c'est quoi ton boulot au Polo ?
Moi j'ai une formation en aménagement du territoire. Donc qui dit aménagement du territoire dit savoir à la fois travailler les questions spatiales, les questions sociales, les questions climatiques, climatologiques, géologiques, faune, flore, environnement, histoire de l'architecture, etc. Le métier d'aménageur, c'est être assez généraliste, savoir marier les choses entre elles. Là, ce que je développe au Polo de particulier, c'est d'inviter les sphères artistiques, littéraire, audiovisuel, mise en scène, art plastique, etc., à s'intéresser aux enjeux urbains, aux enjeux de transition, aux enjeux de transformation des territoires. Donc on accueille des équipes en résidence, des équipes artistiques, des paysagistes, des graphistes, des designers pour travailler des sujets, des enjeux, pollution des sols, risques d'inondation, toute une série de sujets qui sont des sujets d'aménagement du territoire travaillés par des artistes.
En 2019, on aura pu entendre parler du Parlement de Loire.
Le projet Parlement de Loire, donc c'est un projet que l'on initie au Polo en 2019, parce qu'en région centre, il y avait la célébration des 500 ans de la Renaissance. Et Renaissance, changement de perspective, etc. Et donc, on nous a un petit peu invités à travailler un programme de changement de perspective réactualisé. Nous avons choisi trois sujets. Un sujet sur la transition énergétique, un sujet sur la valorisation des déchets et un sujet sur la question du fleuve. Et sur ces trois sujets, nous avons invité des tandems artistes-ingénieurs à travailler pour produire des hypothèses, des idées, des objets. Et donc sur la question du fleuve, assez vite, j'arrive à formuler l'idée d'un Parlement de Loire. L'hypothèse, et si on faisait un Parlement de Loire ? Pourquoi cette idée ? Elle vient du Parlement des choses qu'avait introduit Bruno Latour en 2015 au moment de la COP21, avec ses idées de dire « si des choses, des non-humains pouvaient prendre la parole, des végétaux, des animaux, des minéraux, qu'est-ce qu'ils auraient à dire dans les instances ? Et comment est-ce qu'ils pourraient être considérés dans les politiques publiques ?» Et donc, transposition. La Loire, à Tours notamment, un vrai paysage de l'alerte, tour à tour en sable, tour à tour en eau, zone critique quand il n'y a plus d'eau, là, cet été, 2019 pareil, donc stress hydrique, des concentrations de poissons à certains endroits, d'autres espèces qui sont carrément en danger, la végétation qui se retrouve aussi en difficulté avec des plantes invasives, avec d'autres qui sont carrément en détérioration. Bref, on a ce paysage sous les yeux. C'est pas la même chose à Nantes, c'est pas la même chose en Loire-Amont. Donc dans le Val-de-Loire, il y a vraiment cette force visuelle du paysage de l'alerte et en disant mais ce serait quoi un Parlement de Loire ? Donc première inspiration, les voix, reconnaissance, considération de voix autres qu'humaines dans les instances, dans les assemblées. Deuxième inspiration, 2017, un fleuve en Nouvelle-Zélande, le Whanganui, obtient une reconnaissance de personnalité juridique. Donc ça veut dire qu'il est reconnu en tant que sujet de droit, comme personnalité morale, qui peut intenter des actions en justice, qui peut obtenir réparation, dommages-intérêts face aux préjudices subis. Et on est en Nouvelle-Zélande. Ceux qui ont porté cette hypothèse et ce travail, ce sont les peuples indigènes, les autochtones et les Maoris, donc un peuple du Whanganui, un peuple du fleuve, le fleuve étant considéré presque comme un membre de la famille. Donc il y a un autre attachement au fleuve que nous avons, nous. Donc première différence. Deuxième différence, le régime constitutionnel de Nouvelle-Zélande et la common law, qui n'est pas tout à fait notre cas, puisque notre droit est fondé sur, notre constitution est fondée sur la propriété individuelle, alors que Nouvelle-Zélande est régie plutôt par la loi des communs. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes régimes. Mais pour autant, le fait qu'un fleuve obtienne une personnalité juridique secoue le monde du droit, ébroue le monde des institutions, ébroue le monde de ceux qui travaillent au plan de gestion, que ce soit des établissements publics, que ce soit les agences nationales, toutes les institutions en charge. Ouah, alors là, qu'est-ce qui se passe? Et on va bientôt avoir un nouvel interlocuteur qui devra faire partie de la négociation de ce qu'on devra, ce qu'on pourra faire ou pas. Donc ça gratte la tête de pas mal d'instances. On pourrait même pousser le bouchon un peu plus loin, qui dit personnalité morale, qui aussi, pourquoi pas, compte en banque. Donc si Loire obtenait dommages intérêts pour réparation de préjudices subis par rapport à des pollutions ou des débits naturels ou des menaces, quelle réparation, donc possiblement monétaire, donc on rentrerait dans une hypothèse capitaliste qui n'est pas forcément la voie qu'on aimerait pousser, mais en tout cas, de mettre l'hypothèse au travail en disant cette fiction institutionnelle d'un Parlement de Loire qui à la fois cherche à possiblement faire entendre des voix et à faire reconnaître des droits, cette fiction institutionnelle déjà met au travail les différents acteurs du fleuve, les acteurs du territoire, de l'hydro-territoire, et ce, à l'échelle du bassin versant. Et donc, ce travail-là a été conduit avec l'orchestration de Camille de Toledo, qui est écrivain juriste, qui lui-même avait travaillé beaucoup sur cette question du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande. Et je demande à Camille, est-ce que tu peux nous aider à monter un Parlement de Loire ? Bon, imaginons-le ensemble. Et il dit, on va constituer une commission parlementaire et puis on va faire des auditions. C'était effectivement le premier acte, donc l'hypothèse d'arrière-plan, faire monter des voix, faire monter des droits. Deux yeux sur la méthode, on constitue une commission et on fait des auditions, comme une enquête parlementaire qui permet d'auditionner des praticiens, des experts, etc.
À cet égard, par exemple, Philippe Boineau m'a dit que sa compagne Catherine a parlé au nom des poissons.
Catherine Boineau a été auditionnée. Donc Catherine Boineau, qui est écologue, qui travaille beaucoup sur la question de la qualité de l'eau, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, sur les polluants, sur le lien entre faune, flore, enfin bref, donc tout l'écosystème a parlé donc au nom des poissons. Et Virginie Serna, archéologue, a parlé au nom d'une épave en Loire qui produit une éponge, Spongilla, qui elle-même était une pollution pour le fleuve au début et qui est devenue un écosystème dans lequel des espèces se sont mises à vivre et donc qui ont fabriqué de la vie et donc qui aujourd'hui protège la Loire. Audition de Bruno Latour, qui nous dit « mais c'est formidable ce Parlement de Loire, mais qui est le peuple de Loire ? Y a-t-il un peuple de Loire ? Humain, non humain, vivant, non, voilà. Tant les Maoris, un peuple du fleuve avec des liens quasi tribaux, familiaux entre les éléments naturels et les éléments humains. » Donc nous met un petit peu dans ce questionnement-là. Audition de Valérie Cabanès, qui travaille justement sur les questions de reconnaissance de droits de la nature à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, avec une organisation qui s'appelle Le Garn. Audition de Catherine Larère, philosophe. Audition de Marie-Angèle Hermite, qui travaille la notion d'animisme juridique. De Sacha Bourgeois-Gironde, qui revenait de Nouvelle-Zélande, qui nous raconte en tant qu'économiste, spécialiste du design cognitif. Voilà, donc à chaque fois des voyages. Et ces auditions ont donné lieu à un livre, un rapport des auditions du Parlement de Loire, très documenté, étayé par Notre Affaire à tous, des juristes, et mis en récit par Camille de Toledo, un écrivain formidable. Donc ce livre, aujourd'hui, il constitue un socle de pensée, un socle d'action pour retourner aussi nos façons de faire, nos façons de voir les choses, nos perspectives et de penser le fleuve, non pas seulement à l'aune de qu'est-ce que l'eau, en quoi c'est une ressource à gérer ou exploiter, mais non comment nous négocions avec cette entité fluviale sur la question de l'eau. Et en quoi est-ce que nous sommes prioritaires ou pas prioritaires, et quelle est la nouvelle table de négociation à avoir entre entités naturelles et entités humaines. Dans les suites de cela, on a par exemple travaillé sur la question de la baignade urbaine. Toutes les villes veulent leur baignade urbaine pour se rafraîchir face aux canicules. Et donc, se poser la question sanitaire, des questions de sécurité, des questions de réglementation, etc. Donc, c'est très anthropocentré. En quoi est-ce que le fait d'aller se baigner fait du bien à l'homme ? Avec la démarche Parlement de Loire, on a travaillé un système d'audition, travaillé au fait que de retourner la question, qu'est-ce que ça fait au fleuve que l'homme puisse se baigner ? Donc, d'essayer de retourner à chaque fois les questions, les questionnements, peut-être sur d'autres objets. Voilà, donc la démarche du Parlement de Loire, c'est d'abord un jeu sérieux. C'est on dirait qu'on ferait un Parlement de Loire. On dirait qu'on montrait une institution potentielle qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. Et comment elle marcherait, cette organisation? En faisant ces auditions, ça nous a donné un peu des éléments pour dire bah, ça pourrait marcher comme ci, comme ça. Et puis on est allé enquêter. Ces auditions ont été un puits de connaissances aussi pour tous ceux qui ont participé. Et c'est là qu'on a appris qu'en Nouvelle-Zélande, ils avaient un système de gardiens, 3 cercles de gardiennage du fleuve. Des gardiens, un représentant de l'État, un représentant des tribus maoris, premier cercle. Deuxième cercle, des riverains et des usagers du fleuve. Et troisième cercle, des instances qui travaillent avec le fleuve, dont des instances liées au tourisme, liées à l'économie, liées aux activités humaines. Donc ces 3 cercles permettent aussi de garantir et de travailler le vecteur de considération de voix autre qu'humaine, de la voix du fleuve, en disant ça non, ça oui, ça la pratique, l'extractivisme là de sable, les questions de surfréquentation touristique. Donc c'est aussi des nouveaux plateaux de négociation.
Maud, depuis la tenue de ce Parlement de Loire en 2019, y a-t-il eu des retours, des suites ? Je peux déjà témoigner d'une. Je te l'avoue, dans un premier temps, je me suis dit « Ah, c'est les plasticiens conceptuels font de l'art sur le changement climatique ». Et puis bon, très vite, j'ai eu des échos, des travaux de ce qui se disait. Et cette idée effectivement très forte de doter des milieux naturels de personnalités juridiques, certes quitte à envoyer des sapiens, tribunal de sapiens, pour les représenter. Mais je trouve cette idée très forte et il me semble qu'elle a pu toucher une partie du grand public. Il y a eu quand même une caisse de résonance médiatique. Ça pose tout un tas de problèmes, anthropocentrisme, très vite on parle d'argent, est-ce qu'on peut mettre un prix vraiment sur un litre d'eau ou sur un arbre ? Ça engendre tout un tas d'autres questionnements, mais au moins ça fait bouger les lignes. Que s'est-il passé depuis 2019 et puis 2021, l'apparition de ce livre compte-rendu des travaux du Parlement de Loire ?
Oui, le fleuve qui voulait écrire, c'est l'intitulé du livre, donc sous-titre « Rapport des auditions du Parlement de Loire » paru en 2021 aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'est un bouquin donc, qui restitue ces auditions et qui raconte donc, la question du droit, comme tu l'évoques, reconnaissance personnalité juridique comme une hypothèse. Si, la question des voix, enfin j'insiste, le droit et les voix. Considérer les voix, considérer qu'il y a des entités autres qu'humaines qui peuvent être entendues à des tables de négociation, ne suppose pas forcément qu'il y ait une personnalité juridique. Donc il y a, entre guillemets, 2 combats qui sont reliés dans cette institution potentielle. C'est des voix et des droits. Et donc aujourd'hui, le collectif qui a été constitué avec la mission Val-de-Loire, avec la Rabouilleuse, avec la MSH, la Maison des sciences de l'homme, avec l'Université populaire, puis avec d'autres acteurs, avec l'Agence d'urbanisme, avec des acteurs aussi issus du comité de bassin. Aujourd'hui, l'idée est de travailler, de pousser soit vers le jurisprudentiel, donc pour obtenir une loi, une reconnaissance de personnalité morale. Et on sait très bien que dans le droit français, on va mettre un certain nombre d'années, voire un certain nombre de décennies. Il y a à pousser le côté déclaratif, une déclaration de loi, ou une autre voie juridique. Il y a à pousser la question des voies et de considérer dans les instances, dans les ingénieries, l'agence de l'eau, pourquoi pas la mission Val-de-Loire, dans les plans de gestion, des représentants de Loire, des représentants des espèces, des représentants du milieu, des représentants animaux, végétaux. Et donc, ça, c'est une autre piste. Donc, des droits, la question de retournement des ingénieries classiques. Une troisième piste, c'est de travailler l'espace plus ouvert, plus grand public, que ce soit pas seulement aussi une vision de quelques-uns éclairés, mais aussi du plus grand nombre, et que le plus grand nombre puisse prendre sa part aussi à ce retournement, à cette décolonisation des savoirs, et à travailler aussi en lucidité et en compréhension de l'alerte à sa façon, à son échelle. Et il y a une quatrième piste qui nous amène à travailler sur les notions d'inter-espèces, les interdépendances, l'interspécifique, ça beaucoup avec possiblement des écologues, des scientifiques, mais aussi avec des pratiques qui sont plus liées, comment se reconnecter à la nature, aux entités naturelles, etc. Donc, ça, ce sont les quatre grands chantiers et l'Agence de l'eau, des territoires comme Nantes Métropole, Blois, Clermont-Ferrand, Loire-Forêt, manifestent leur intérêt pour rejoindre la démarche. Parce que, vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement un objectif de faire un Parlement de Loire, mais c'est de faire méthode, et de faire méthode inspirante qui permet de travailler plein d'objets. La baignade, on l'a vu, mais aussi pourquoi pas les aménagements de berges, mais aussi pourquoi pas les enjeux de risque d'inondation, mais aussi pourquoi pas des questions de fluvialisation des chantiers, plein de sujets de façon retournée.
Merci à Maud Le Floch du Polo, l'une des actrices du Parlement de Loire. Retour vers Gilles Deguet, militant écologiste siégeant au comité de bassin Loire-Bretagne.
Il y a deux sujets dans la question du Parlement de Loire. Il y a la question de l'idée même d'un Parlement de Loire, et il y a la deuxième question qui est la question de la personnalité juridique de la nature. Ces deux éléments qui sont très interdépendants, parce que dès le début, le Parlement de Loire a été sur cette question de la personnalité juridique, et la personnalité juridique est portée par un certain nombre d'associations mondiales, et notamment l'association Notre Affaire à Tous, celle qui a obtenu la condamnation de l'État français pour non-application de ses engagements à la COP21. Et cette association-là porte très fort une idée de personnalité juridique de la nature. On va commencer par Parlement de Loire. Moi, je siège dans un machin qui se présente comme un Parlement de Loire. Et c'est donc complètement intéressant tout d'un coup de découvrir qu'il y a des gens qui estiment qu'il faut faire un Parlement de Loire. Mais il y en a un, le Parlement de Loire, c'est le comité de bassin. Et donc, moi, la première chose que je vois, c'est que je leur dis, mais attendez, c'est quoi cette chose? Et ce qui est immédiatement et totalement intéressant, c'est que dans le Parlement de Loire, qui s'est réuni à Tours, hein, Saint-Pierre-des-Cordes, au Polo, il n'y a pas du tout les mêmes acteurs que dans l'autre. Et donc, d'une certaine manière, il y a deux Parlements de Loire. Et ce qui est complètement intéressant, c'est que le président du comité de bassin, personnalité intéressante que je pourrais controverser, mais qui a une espèce de forme assez étonnante d'ouverture, rencontre le deuxième Parlement de Loire et dit mais, « Venez parler devant le comité de bassin ». Et donc, il y a trois représentants du Parlement de Loire qui sont venus parler dans la dernière réunion du comité de bassin en juillet. Comme ils ont en plus parlé de la personnalité juridique de la Loire et tout, c'était un propos assez explosif quand même. Hein. Ils étaient à la tribune pour expliquer qu'il fallait faire un Parlement de Loire à des gens qui pensaient qu'ils l'étaient. Bon, ça avait un côté un peu iconoclaste et un peu raide.
Ça n'a pas manqué d'ailleurs, ils se sont fait rembarrer sur le thème. Nous, on a des vraies réalités, on fait des barrages et c'est grâce à nos barrages que vos poissons ne crèvent pas, ce qui est une totale absurdité. Mais passons, mais on voit bien l'opposition qui était faite. Et donc moi, je les voyais arriver, je les connaissais auparavant. J'avais commencé à réfléchir avec eux sur tout ça. Et ce qui était frappant, c'est le renversement de problématiques. Le comité de bassin, c'est un parlement non pas de Loire, mais des usagers de la Loire. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a usagers partout. C'est un parlement des usagers, c'est un parlement des gens qui se posent en « j'en ai besoin ». Et nous, les défenseurs de l'environnement, on est dans une position très compliquée. On est des usagers non économiques. Et on vient avec un renversement de la problématique. Moi, je ne me considère pas comme usager de la nature. Défenseur peut-être, protecteur, mais pas usager. Et ce que ramenait l'autre parlement, c'était précisément que ça partait non pas des usages, mais de la nature elle-même pour aller regarder quels étaient les usages à l'intérieur. D'un seul coup, le retournement que je disais, c'est-à-dire non pas transformer la nature pour nos usages, mais être capable d'adapter nos usages au respect de cette nature, d'un seul coup, ça le matérialisait parce que ce qu'on essayait de faire, ce n'était pas un parlement d'usagers, mais un parlement qui s'occupait de la Loire. Et du coup, d'ailleurs, ça a amené d'autres acteurs. Parce que d'un coup, il y a des artistes, des poètes et tout. Et ça, dans le comité de bassin, il n'y en a pas trace. Et donc, ça disait quelque chose d'autre sur pourquoi la nature nous est si précieuse. Et ce n'est pas parce qu'elle sert à des usages, etc. Et tout. Et donc, ça enlevait cette espèce d'idée. On parle toujours, dans ces instances-là, de ressources en eau. C'est une ressource pour qui ? Une ressource, ça suppose toujours d'identifier l'utilisateur. Et donc, ça reprend les points de vue anthropocentrés à chaque fois. Et donc, ce qui est absolument fondamental, très, très novateur, dans cette idée même de Parlement de Loire, c'est ça. C'est qu'il y a un vrai Parlement, le comité de bassin, mais c'est un Parlement d'utilisateurs et qui ne parle que de la question dont on va l'utiliser. Et pas de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment on le respecte. Et le Parlement de Loire introduisait cette idée-là nouvelle, donc avec des acteurs différents et surtout avec une conception différente. Et je l'ai dit au comité de bassin. On a eu des vraies discussions là-dessus. Je me souviens d'une élue qui a dit « les poètes, c'est vachement important ». C'est génial de dire au comité de bassin, les gens qui commencent à dire des choses comme ça, ça veut dire qu'on est en train de bousculer des choses. Donc, Parlement de Loire, c'est une super idée. Alors après, personnalité juridique. Alors ça, c'est un deuxième débat, mais que j'ai avec le Parlement de Loire.
Oh, je t'avoue, Gilles, quand j'ai entendu un petit peu ce que j'ai pu en percevoir du Parlement de Loire, il y a aussi une part de moi qui a un petit peu ricané. Il y a un truc artistico-théâtral, un peu ésotérique, un peu spirituel, hein, très arty. Mais finalement, je me suis dit, mais non, mais ces gens touchent du doigt quelque chose de fondamental. Je vais utiliser un grand mot, là, voilà, la spiritualité. Le cadeau que la nature nous fait, ça n'a pas de prix. Et ça, en fait, il faut le défendre, au-delà de parler de mètres cubes d'eau.
C'est pas ma pensée du tout, pas du tout. Quand je dis respecter la nature comme ce qu'elle est, c'est un point de vue totalement scientifique. La nature a des règles, a des modes de fonctionnement. On a besoin de la comprendre. Ça ne m'amène pas particulièrement l'idée d'une création, d'un machin, d'une spiritualité et tout. Ça ne m'amène pas ça. Simplement, ça m'amène un point de vue scientifique qui est que non, la nature ne se résume pas à des concepts qui ont été forgés pour les sociétés humaines et que ça fonctionne différemment. Du coup, de la même façon que je ne crois pas que les concepts économiques s'appliquent au fonctionnement de la nature, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de mettre de la spiritualité dans la nature pour qu'elle soit extraordinaire, géniale, etc. Et que ces mécanismes me fascinent complètement, mais ils me fascinent comme des mécanismes très très forts. Voilà. Je veux dire, il y a une espèce de diversité de la nature, il y a une espèce d'adaptabilité de la nature. Mais honnêtement, moi je suis assez darwinien, pas forcément c'est le meilleur, le plus fort qui l'emporte, mais il y a des adaptations, il y a des choses qui subsistent, qui restent. On est sur des éléments qui sont d'une extrême richesse, qu'on n'est pas capable artificiellement et techniquement de remplacer. C'est pour ça que là, l'illusion est absolue. Mais cette extrême richesse, elle nous est accessible et je ne la considère pas comme extérieure, y compris à une approche scientifique. Et d'ailleurs, c'est les approches scientifiques qui nous ont permis de progresser dans ces connaissances-là. Je vais revenir encore à Loire Vivante. Le progrès considérable qui s'est passé au moment de Loire Vivante, avec des scientifiques, dans Loire Vivante, il y avait des gens qui bossaient au CNRS et tout. Mais l'élément très novateur, mais qui a vraiment imprégné toute la pensée sur les milieux aquatiques depuis, c'est l'idée d'écosystème. Avant Loire Vivante, je ne dis pas que c'est que Loire Vivante, Loire Vivante était l'illustration d'une modification, mais on est passé d'une vision qu'on appelle le petit cycle de l'eau dans les milieux qui travaillent sur l'eau. C'est-à-dire l'utilisation de l'eau, je la prends, je l'utilise, je la purifie et je la renvoie dans l'eau. C'est un cycle complètement anthropocentré. On est passé à l'idée qu'on ne pouvait pas parler d'une rivière sans parler de son bassin versant, sans parler de la nappe qui des fois l'accompagne, ne l'accompagne pas, la recharge, etc. et tout, sans parler d'un ensemble extrêmement global et avec une pensée bien plus complexe que simplement la pensée du tuyau. Il y a encore cette opposition dans le comité de bassin hein, entre des gens qui ont une vision à la fois très utilitaire, mais en même temps très réduite des fonctionnements de la nature, et une vision beaucoup plus complexe. On appelle cette complexité de la spiritualité, moi, ce n'est pas ma réflexion. Alors maintenant, je continue. Je pense que mettre de la religiosité sur la nature n'est pas tellement différent de mettre des lois économiques sur la nature, et n'est pas tellement différent non plus d'essayer de donner une personnalité juridique, et c'est là que j'interroge en tout cas ce mouvement-là, qui encore une fois est extrêmement important parce qu'il a retourné la problématique, et je trouve que c'est très important, mais pour autant, on a fait un truc génial, et on essaye de théoriser quelque chose qui vient par-dessus, et quand on théorise avec des catégories juridiques, et je pense que profondément, la catégorie juridique ne s'applique pas à la nature, pas plus que les catégories économiques, pas plus. Et pas plus non plus probablement que les catégories spirituelles, machin, etc., d'analyse des civilisations. Je veux bien que dans les analyses de civilisation, on s'occupe de toutes ces questions-là. Pour autant, arriver à essayer de caler tous ces concepts-là sur la nature, je pense que c'est fondamentalement une erreur et que c'est des restes d'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'en voulant combattre l'anthropocentrisme, on finit par le faire avec des catégories tellement humaines et tellement sorties des sociétés que finalement c'est une résurgence de l'anthropocentrisme. Je pense qu'il y a tout un malaise dans les gens qui sont à la fois séduits par l'analogie de la rivière de Nouvelle-Zélande qui a obtenu une réparation, etc. Bon.
Est-ce qu'elle est considérée comme une entité juridique dans les tribunaux néo-zélandais ?
Oui, mais je comprends ça. Alors, cette question d'entité juridique, pour autant que je connaisse les exemples, c'est lié à des peuples qui habitent et qui ont une vision bien plus synthétique de leur environnement et qui se sentent comme dans l'environnement. D'une certaine manière, ces rivières-là qui ont obtenu satisfaction l'ont obtenu parce qu'on défendait en même temps des droits qui étaient des droits des populations qui étaient avec elles. Alors, c'est une hypothèse, mais je pense que l'erreur d'analyse consiste à ne pas se rendre compte que si ça a fonctionné sur le mode juridique, c'est précisément parce qu'il y avait des personnalités juridiques qui pouvaient s'identifier par ailleurs, par leur philosophie, à la nature.
En mode de vie, il s'agit de populations qui sont complètement insérées et qui vivent avec cette nature.
Mais moi, quand je vais au tribunal, je souhaite pouvoir y aller sur une conception humaine respectueuse de l'environnement et pas en disant je suis l'environnement, parce que je ne suis pas, je ne résume pas. Voilà. C'est cette réduction à une dimension qui me paraît poser problème. Alors, si on continue sur l'analogie avec les questions financières, encore une fois, au début, c'est dans des luttes qu'on s'est trouvé utiliser l'arme du fric, puis ça nous arrive encore régulièrement d'attaquer des gens qui détruisent l'environnement, et qu'est-ce qu'on leur demande ? Des ronds. Bon. En partant de ça, dès l'instant qu'on commence à essayer de la théoriser, on obtient une absurdité. Je crains que ce soit la même chose avec le juridique. C'est-à-dire, je crains qu'il faut effectivement faire tous ces combats juridiques qui sont absolument nécessaires, et je ne veux pas m'arrêter de les faire, y compris en demandant du fric, mais aussi en empêchant des atteintes. Je veux dire, je me suis battu dans Loire Vivante pour empêcher 3 barrages sur la Loire. Je l'ai fait au nom d'une vision de la Loire qui est une vision de son identité, de mode de fonctionnement et d'équilibre.
Accessoirement, vous avez gagné dans 2 cas sur 3.
C'est dans 3 sur 4. Et c'est pas rien. On pourrait essayer d'analyser comment on a gagné, mais il y a des gens qui ont écrit des bouquins là-dessus et c'est plutôt bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a fait au nom d'une vision qui était une vision qui se renversait complètement. Jusque-là, on avait, il y a de l'eau qui coule en haut, on la stocke pour pouvoir l'avoir en bas. Là, nous, on est à un endroit, le maire de Tours voulait se protéger tellement de toutes les inondations, ça sera un autre sujet, ça, les inondations, hein, voulait se protéger tellement des inondations qu'il fallait pour ça mettre des barrages partout pour pouvoir retenir la flotte, pour qu'elle ne vienne pas embêter son joli projet de mettre des canaux vénitiens dans la Gloriette.
Tu évoques le règne de Jean Royer, hein, qui a régné à Tours pendant plus de 30 ans.
Royer, il exprime de façon extrêmement brutale le fait qu'il faut dompter la nature. Mais il l'a dit 10 fois, il faut dompter la nature. Et c'est ce rêve-là qui arrive dans le mur. Et ce rêve-là est mort, est foutu, etc. Et il y a encore des gens qui s'y accrochent. C'est ça qui s'est passé et c'est ça qui est en train de changer.
Gilles, nous arrivons au terme de cette émission. Cette question que la Loire devienne une entité juridique, voilà, si on te proposait de devenir Monsieur Loire, le sapiens qui représente la Loire dans un tribunal, est-ce que tu accepterais malgré toutes les réserves philosophiques et politiques que tu viens d'émettre ?
Mais attends, on le fait déjà, sans personnalité juridique. Je ne sais pas ce que ça m'ajoute. Bien entendu, des procès importants, toutes les associations en mènent depuis très très longtemps. Je vais essayer de ne pas faire une réponse trop caricaturale. Premièrement, on le fait. Et on s'érige, d'une certaine manière, en représentant d'un intérêt supérieur. Quand je dis, nous, on dit qu'on est un collège d'usagers d'intérêt général, c'est une vraie prétention. Nous avons une prétention d'être, effectivement, dans une définition d'intérêt général. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on va en justice. Et donc, à ce titre-là, on y va comme représentant de données qui sont humaines et pas que humaines. Respect de l'environnement, etc. Et tout. Et dès l'instant qu'on fait ça, où on est dans de la défense, de la représentation d'entités qui ne sont pas que des entités sociales. On est sur ça. Donc je dis, ça ne changerait pas grand-chose. Alors je vais quand même dire ce que ça change. C'est que, pour l'instant, toutes les lois qui sont faites avec une vision d'utilisateur. Elles ont été fabriquées comme ça. Et donc on est obligé d'amener ce point de vue différents dans des tribunaux qui, eux, fonctionnent sur des données juridiques qui sont totalement imprégnées du fait qu'il y a quelque chose de condamnable s'il y a une humanité qui directement en est victime. C'est sur ces arguments-là qu'on travaille. Et donc, changer en partie le droit, pas forcément pour donner une personnalité juridique, mais pour faire que les équilibres naturels soient considérés comme des éléments qu'on ne doit pas atteindre. Dans toutes ces questions juridiques, il y a à la fois l'idée de la personnalité juridique et il y a la question de définir le crime d'écocide. Oui, je pense que définir le crime d'écocide, c'est un élément extrêmement important. C'est beaucoup moins anthropisé que de dire qu'il y a une personnalité juridique. D'accord ? Écocide, ça veut dire que ça le tue. Je pense qu'il faut modifier ces éléments-là. Je vais le dire pour notamment ce mouvement, là, Notre Affaire à Tous, c'est défendre l'écocide, oui, sans problème. Aller jusqu'à la personnalité juridique, je pense qu'on est sur un raisonnement analogique qui dépasse le fondement de départ. Et ces raisonnements analogiques qui créent des logiques à partir de phénomènes qui ont des éléments de comparaison, je pense qu'elles conduisent en général des impasses parce que ce n'est pas des vrais éléments d'analyse. Écocide, oui, il faut mettre un crime d'écocide. Et pas seulement un délit, hein. La différence entre un délit et un crime, c'est qu'un délit, bon, on a fait un délit, on a rattrapé, quoi. Il y a un vieux machin un peu cateau, là, dans cette histoire-là. Bon, d'accord, j'ai péché, mais j'ai rattrapé et tout, et c'est bon, quoi. La compensation, c'est un peu les indulgences. J'ai fait un truc et tout, et puis faut pas d'indulgence par rapport à ça. Et donc, c'est très important de le définir, effectivement, comme un crime. Il n'y a pas de comparaison là-dessus, mais ça a bien toutes les caractéristiques d'un crime, qui est quand même que c'est irréparable.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cet épisode de notre saga Au Secours. Discussion à retrouver sur notre site polymixetlavoixoff.com avant le prochain épisode, bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.